Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction de Gameblog, podcast 555 déjà, avec cette semaine, eh bien, Thomas, en direct de sa bibliothèque.
Tout à fait, et oui, je suis assigné à résidence pour le moment, et mais oui, je suis quand même là.
Parce qu'il faut le savoir, bosser chez Gameblog, ce n'est pas sans risque, et Thomas est qu'à contact. Voilà, il est obligé de rester chez lui, il s'est fait un écouvillon hier, il va recommencer dans la semaine, et il aura peut-être des piqûres aussi à faire. Peut-être qu'il va y avoir des prises de sang, ou...
Là, il tombe de l'œil, il tombe de l'œil par le podcast.
Il faut savoir que Thomas est très sensible à tout ce qui est aiguille.
J'allais faire la, mais avec le casque sur les oreilles, ça va être compliqué.
Donc voilà, c'est deux chez lui avec une possibilité de Covid que Thomas eh bien, participe à ce podcast. Romain, lui, va très bien.
Oui.
Il est chez lui, à Levallois, banlieue de Tokyo, que vous connaissez bien, évidemment. Et nous allons ensemble, messieurs...
Comme on appelle ça.
Ah oui, quelle belle Saint-Valentin en attendant à Levallois. Hein. Il faudra en parler un jour de ce message d'amour. Bref, on va parler cette semaine de trois thèmes différents. Dans le tas, il y a deux tests. Alors, on commencera avec le test de Super Mario 3D World plus Bowser's Fury, ou Bowser's Fury, comme dirait Poufy. On finira avec celui de Persona 5 Strikers. Et entre deux, eh bien, il y aura une polémique sur laquelle nous allons revenir. C'est la ressortie de Six Days in Fallujah, jeu abandonné en 2009 par Konami, qui va finalement se présenter sur PC et console en 2021. Et ça fait évidemment énormément parler. Et nous parlerons évidemment de ce jeu tout à l'heure. Mais avant ça, comme d'habitude, le win et le fail de la semaine. Et le win de la semaine, il est à mettre au compte d'Epic Games qui va nous sortir un truc, Thomas, mais un truc de cinglé.
Eh bien, un outil, en l'occurrence, mais un outil a priori fort pratique. On sait que les développements de jeux triple ou quadruple A prennent de plus en plus de temps. Et bah, Epic Games a décidé, a priori, de faciliter un petit peu la tâche des développeurs en dévoilant effectivement la semaine dernière le MetaHuman Creator, qui serait donc un outil qui permettrait eh bien, de générer des êtres humains assez rapidement, en fait, hein, une espèce de créateur de personnages plus, adapté évidemment à l'Unreal Engine, et qui va permettre de justement se passer de la modélisation un petit peu chronophage de tout un tas de PNJ, de protagonistes au sein des jeux en 3D. Et en fait, cette annonce, c'est un petit peu la résultante de deux rachats qui avaient eu lieu ces dernières années par Epic. Ils avaient racheté les Britanniques de Cubic Motion en 2020, qui étaient justement spécialisés dans l'animation faciale, et qui avaient d'ailleurs œuvré sur Hellblade, hein, pour ceux qui avaient apprécié leur travail en 2016. Et un petit peu plus tôt, en 2019, ils avaient racheté Three Lateral, qui est aussi un studio spécialisé dans la modélisation et l'animation faciale, pour le coup, des Serbes. Et tout ce petit monde a mis a priori ses outils en commun pour prendre ce MetaHuman Creator qui ne craint pas les zooms. C'est l'un des détails que j'ai retenu dans les premières déclarations. A priori, il ne faudra plus avoir honte du détail des visages dans ces jeux en 3D, en tout cas pour ceux qui utiliseront ce nouvel outil. Bref, voilà, on espère que devant la taille des chantiers qui est désormais titanesque au niveau de la production de jeux AAA, ça va permettre à certaines petites mains eh bien, d'aller peut-être un peu plus vite, ou en tout cas de produire plus de contenu sans trop se prendre la tête. On a évidemment hâte de voir ce que ça va donner en jeu, sachant qu'une version Early Access sera disponible eh bien, a priori dès cette année, pour ceux qui veulent s'y essayer, pour peut-être se faire un petit peu les mains en attendant que ce soit implémenté dans la plupart des outils de développement.
Déjà, voilà, donc, on sait tout ce que l'Unreal Engine a apporté en facilité aux développeurs du monde entier. Là, il passe encore un cap de simplification du travail et d'automatisation des tâches pour les développeurs. Bientôt, ils vont faire une mise à jour où, en fait, tu auras juste à appuyer sur un bouton et ça te générera un jeu aléatoirement avec son gameplay, ses décors, ses personnages.
Avec tous les risques que cela comporte.
Oui, avec les risques que ça comporte, mais c'est assez impressionnant.
Mais c'est une excellente nouvelle que les artistes n'aient plus qu'à se concentrer que sur la partie artistique et beaucoup moins sur la partie technique, qui est quand même ce qui bouffe le plus de temps. Et quand on se rappelle comment les Japonais avaient galéré à l'époque de la PS3 et de la Xbox 360, on se dit que ça leur aurait bien facilité la tâche à l'époque. Et j'invite les personnes qui nous suivent, à aller voir sur Twitter un certain Caminos, Axel Riffard, un bon copain à nous, qui fait des petites démonstrations de temps en temps, puisqu'il est maintenant, bah, il travaille chez Epic, ce bon vieux Caminos. Et on peut voir, par exemple, qu'il a une petite démonstration d'eye tracking avec un des deux personnages de MetaHumans qui sont proposés en échantillon aux développeurs. C'est assez impressionnant de voir qu'avec son propre téléphone comme ça, il arrive à générer les expressions du visage et les yeux et le mouvement des yeux. C'est une chose qui va être très intéressante effectivement à surveiller. Et encore une fois, c'est tout bon pour les développeurs. Et
ça va peut-être être un moyen de passer outre la Uncanny Valley, tu sais, qui est un peu la crainte de tous les créateurs de personnages en 3D, avec ces regards un peu vides, tu sais, ces visages qui font réaliste, mais pas totalement quand même. Et là, avec ce système-là, je pense qu'on pourra peut-être sauter cette étape.
Alors, on pourrait même aller plus loin, et je conclue là-dessus. Il parlait d'incorporer justement des photos directement sur des modèles en 3D et ensuite de pouvoir les retoucher assez rapidement. Ça permettrait peut-être justement à certains de faire le jeu dont vous êtes le héros, où on uploaderait justement une photo de sa tronche pour devenir l'avatar principal de l'aventure. À voir.
Voilà, depuis GoldenEye et la Game Boy Camera, il y a du chemin qui a été fait, mine de rien.
Tout à fait.
Non, c'était pour Perfect Dark, je suis con.
C'était Perfect Dark, mais
ouais, GoldenEye, dû l'avoir.
Ce sont effectivement des visages de vrais gens, de vrais développeurs de chez Rareware à l'époque, donc ça marche quand même.
Oui, c'est vrai. Non, je pensais à la Game Boy Camera et l'annulation de la fonctionnalité, tout ça. Bref, on va parler du fail maintenant, parce que cette semaine, il ne s'est pas passé que des bonnes choses, malheureusement.
Ouais. Romain. Alors, le fail, c'est la manière que Poufy a de prononcer Bowser.
Hein. Ah oui, c'est vrai.
C'est très juste.
C'est vrai.
Le fameux Bowser de nos campagnes. Donc, plus sérieusement, le fail de cette semaine, c'est lié à CD Projekt Red, mais pour le coup, ça concerne pas leurs agissements à eux directement, pour une fois. C'est que, comme vous le savez, leurs serveurs ont été piratés, et ce piratage a aussi bien regroupé des données pas forcément liées au développement des jeux directement, mais aussi des codes sources, des versions non définitives de jeux, etc., etc. Et sachant que CD Projekt n'a pas répondu favorablement à la demande de rançon des pirates, et ben ces derniers ont commencé à faire liker des choses et ont aussi mis le moteur du studio, donc le
Red Engine, ouais.
Red Engine, pardon, oui. Ils ont mis le Red Engine aux ventes aux enchères. Et il apparaît que ce dernier a trouvé un acheteur. Évidemment, son identité n'a pas été révélée, mais les hackers ont mis la chose en vente sur un forum russe, apparemment, et ils ont annoncé assez rapidement après avoir reçu une offre suffisante et que c'était que la vente était terminée. Alors après, il y a plein de possibilités d'acheteurs potentiels. Ça pourrait très bien être, je ne sais pas, un collectionneur fortuné, ou ça pourrait aussi être des développeurs pas trop regardants sur les droits d'auteur, parce qu'on sait que quand on regarde, par exemple, rien que les
codes sources, mine de rien, c'est un trésor.
Oui, un code source, surtout d'un moteur comme celui-là, c'est vraiment quelque chose qui a énormément de valeur et qui peut te faire gagner énormément de temps et de travail si tu veux développer ton... Si tu veux développer ton jeu, mais quand on sait par exemple qu'on va sur les qu'on voit les publicités pour des jeux smartphone ou des choses de ce genre, des jeux PC parfois avec des pop-up qui apparaissent sur des sites, etc., on peut se rendre compte que de la copie éhontée de jeux existants, ça se fait, et donc accéder au code source d'un quelque chose comme les jeux CD Projekt Red, ça peut être une aubaine pour des studios peu regardants. Et j'imagine assez facilement des studios chinois, par exemple, un studio chinois utiliser ce moteur pour créer leur production un peu chipouille par la suite. Mais bon, là, c'est que de la spéculation de ma part, parce qu'on ne sait pas qui a acheté.
C'est Musk, on n'en sait rien.
Pour le coup, on s'en rendra peut-être compte assez rapidement, parce que si on commence à voir des jeux popés dans un an ou un truc comme ça qui ressemble curieusement en termes de features à ce que CD Projekt Red fait.
Sauf si quelqu'un l'a acheté pour justement ne jamais le dévoiler et l'enterrer quelque part afin que le leak ne serve à personne finalement. C'est totalement possible aussi.
Ah ouais. Ça, oui, ça peut être, ça, je te dis, ça peut aussi être l'œuvre d'un collectionneur ou de choses comme ça. On ne sait pas.
Bon, on verra, bon, ça se trouve.
Il est dans la nature officiellement.
Et c'est bien triste, ce genre de choses. Très, très triste. Mais bon, maintenant, il est temps de passer eh ben, au gros du podcast, à savoir les thèmes. Et le premier thème de la semaine, ah ça c'est sûr que c'est beaucoup plus joyeux, c'est Super Mario 3D World plus Bowser's Fury, la réédition agrémentée d'un nouveau mode de jeu du Super Mario 3D World sorti sur Wii U 2013, si je ne m'abuse, qui est un excellent jeu qu'on n'a pas suffisamment, je trouve, mis en avant à travers les années. Et Thomas, on en avait discuté déjà avec la preview, maintenant on a pu... il jouait davantage, le test est paru sur Gameblog. Il a joué ce week-end, et quand je dis beaucoup de monde, il y a aussi beaucoup de développeurs qui se sont jetés sur le jeu ce week-end et qui se sont amusés à montrer qu'ils l'avaient, dont Fumito Ueda, si je ne m'abuse, par exemple. Est-ce que c'est bien mérité, Thomas, cette petite hype autour du retour de Super Mario 3D World ?
Ben, j'ai envie de dire évidemment une ou deux ou trois fois oui, puisque comme tu le précisais, déjà le matériau de base du jeu original, le jeu Wii U, celui à côté duquel vous êtes peut-être passé parce qu'il est sorti sur une console au destin comédie, déjà de base c'est quand même un excellent platformer 3D avec beaucoup d'idées, avec beaucoup d'ingéniosité dans son level design, alors qu'il reprend une formule plus classique inspirée directement de 3D Land avec une world map et des niveaux qui s'enchaînent, des petits niveaux avec à chaque fois une espèce d'idée centrale, donc qui s'éloigne complètement de la formule Mario Galaxy qui était sortie juste avant et qui en plus était déjà pensée à l'époque pour être jouée eh bien, jusqu'à 4 avec des Wiimotes qui venaient agrémenter le gamepad. Et bah, cette idée a été reprise et cette fois l'aventure est globalement la même, hein. Il n'y a pas de grand bouleversement à l'intérieur du jeu, malheureusement j'ai envie de dire, parce qu'il y avait sans doute quelques petits détails à modifier, par exemple les boss qui étaient tout pourris, qui sont bah, toujours les mêmes malheureusement, mais au-delà de ça, eh bien, l'aventure elle est désormais jouable en ligne. C'est sans doute ce qui a participé à faire assez rapidement le succès du jeu, c'est qu'à une époque où on ne peut pas trop sortir et se retrouver entre amis, eh bien là on peut en ligne parcourir des niveaux tous ensemble, sachant que bah, Nintendo oblige, la formule elle oscille entre... troll assez joyeux et plutôt festif pendant l'exploration et petite touche de compétition à la fin puisqu'il y a quand même un système de scoring avec une couronne à la clé qu'on pourra quand même piquer à ses partenaires de jeu si jamais ils sont touchés en ligne. Bref, il y a plein de choses à expérimenter à plusieurs et on voit d'ailleurs que de toute façon le level design, même le placement de la caméra était vraiment pensé pour que l'aventure soit parcourue à plusieurs. Donc déjà de base, si vous n'avez pas pu découvrir le jeu à l'époque de sa sortie, ben, c'est une excellente surprise qui vous attend parce que malgré sa relative facilité sur les deux premiers tiers de l'aventure, il y a quand même pas mal de contenu et pas mal de défis pour ceux qui voudraient atteindre le 100%. Il y a quand même pas mal de petites choses à aller récupérer. Dans la liste des ajouts plus ou moins anecdotiques que Nintendo a pu apporter, il y a l'arrivée d'un mode photo. Bon, voilà, un mode photo qui permet eh bien, de recycler les tampons qu'on récupérait dans chacun des niveaux qui étaient destinés, rappelez-vous, au Miiverse, le réseau social de l'époque Wii U de Nintendo, et les niveaux de Captain Toad aussi, qui étaient à l'origine jouables uniquement en solo, qui maintenant sont jouables à 4, c'est pas forcément toujours évident, et je crois que le jeu a été aussi un tout petit peu accéléré dans son défilement, ce qui fait qu'on gagne un petit peu en dynamisme, sachant qu'il en manquait pas forcément à l'époque. Bref, c'est déjà une très bonne cuvée qui apportait, on en parlait juste avant, tout un tas de modifications de game design dans la série, par exemple les costumes de chat, la présence des cerises qui permet de démultiplier le nombre de personnages présents à l'écran, tout ça donne un espèce de joyeux bordel organisé à la fin quand on mélange tout avec en plus des amis sur internet. Bref, c'est déjà une très bonne pioche ce Mario 3D World qui n'avait pas forcément pu être apprécié par énormément de joueurs.
Et le fait qu'il soit, comme tu dis, multijoueur en ligne, en plus de ça, ça vraiment ça change tout. C'est une option qui n'existait pas à l'époque, c'était que du canapé.
À l'époque, c'était du local uniquement, effectivement. Ce qui ne m'avait pas empêché de passer de très bons moments dessus d'ailleurs, mais parce qu'à cette époque-là, on pouvait inviter du monde chez soi jusqu'au bout de la nuit sans risquer quoi que ce soit. Mais ça, forcément, ça transforme l'expérience et on va dire que ça arrive à point nommé. au vu de la période qu'on traverse. Mais pour ceux qui l'auraient déjà parcouru en long, en large, en travers, alors moi c'était mon cas, et pour autant j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à reparcourir l'aventure, parce que vraiment, je ne peux qu'abonder dans ton sens, mon cher Plumeau. On n'a pas assez loué les qualités de ce jeu à l'époque, il mérite d'être redécouvert, et pour moi ça a été un plaisir de reparcourir l'aventure 7 ans après. Mais en plus de ça, maintenant on le sait, vous avez le petit bonus qui s'appelle Boozer's Fury, donc selon la jurisprudence Gameblog, qui est pour le coup une aventure complètement inédite et qui change pas mal la donne. On avait déjà eu l'occasion d'en parler pendant la preview. On est dans un espèce de petit monde ouvert, donc quelque part entre le level design de Super Mario Odyssey et les mécaniques de Super Mario 3D World, donc le costume de chat et le fait de pouvoir interchanger comme ça librement entre le costume des frères Boomerang, la feuille pour devenir un tanuki, etc. Tout ça appliqué à un environnement assez ouvert qui laisse pas mal de liberté dans la progression. Si vous avez suivi le petit live qu'on a fait la semaine dernière, vous avez vu comment ça s'articulait. On a une zone de jeu au sein de laquelle sont disposés quelques phares qui sont un petit peu les piliers qui ancrent les différents niveaux justement dans cet univers. Et autour de ces phares, on a des astres félins qui sont donc le collectible de cet épisode, hein. C'est pas une étoile, un shine ou que sais-je, ce sont des têtes de chat, et des têtes de chat qu'on va récupérer alors, d'abord de manière assez classique, puisque quand on arrive dans un premier niveau, le but étant d'arriver au bout jusqu'au pied du phare pour récupérer l'astre félin et on va dire officialiser la zone, mais au-delà de ça, eh bien, vous avez plein de petits astres félins plus ou moins cachés, justement, au nombre de 5 dans chacune de ces zones, qui sont autant de challenges, en fait, qui poussent à l'exploration, à l'expérimentation et aux trouvailles. Et au fur et à mesure, la zone de jeu s'étend, alors qu'on progresse et qu'on récupère de nouveaux astres félins, mais surtout, elle débloque un nouvel item, la gigacloche. Gigacloche qui est évidemment au centre de cette aventure de Bowser's Fury, puisqu'elle va nous permettre eh bien, de tenir tête à ce cher Bowser, qui est cette fois-ci gigantesque, mazouté. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon interprétation. Hein. Il est recouvert de noir et
C'est très Godzilla. Techniquement,
oui, il y a un côté kaiju en plus parce qu'il crache du feu, donc
La pollution, etc. C'est clairement.
Il manque juste le petit accident nucléaire pour expliquer son arrivée et sa taille gigantesque au départ. Mais
ce n'est pas un jeu politique.
Ah, mais ça, c'est après. Tu te gourres, Romain. Tu te gourres. C'est celui d'après. Ah, ça.
Je me suis réveillé. Je me suis pas réveillé au bon moment.
C'est le décalage. Et donc, oui, de temps en temps, ce cher Bowser va péter un câble, littéralement, et tout détruire, se présenter face à Mario. On change radicalement d'ambiance. On avait des thèmes assez joyeux auparavant. Là, on passe sur vraiment un espèce de heavy metal grand public, avec des guitares droppées, etc. Et il va falloir eh bien, résister aux assauts de ce cher Bowser. Ce qui permet de faire contre mauvaise fortune bon cœur, puisqu'on peut accéder à des environnements qui n'étaient pas forcément accessibles sans justement sa présence, puisqu'il va générer avec ses attaques des plateformes, il va casser des fois des blocs aussi qui ne le sont pas autrement et qui vont permettre de récupérer des astres félins. Et ces astres félins récupérés pendant que Bowser est là vont permettre de diminuer un petit peu sa barre de vie, ce qui facilite la chose au moment où on va pouvoir justement aller chercher la gigacloche, qui va faire grandir Mario jusqu'à avoir une taille suffisante pour affronter Bowser Godzilla. Donc on a un combat de chat géant contre une espèce de tortue à pic. Vous y verrez ce que vous voulez en termes de messages plus ou moins politiques ou culturels. Mais voilà, c'est la mécanique principale de cette nouvelle aventure, c'est qu'on a un événement pas forcément aléatoire parce qu'on a un cycle qui est respecté, qui est répété en fait de la part de Bowser, mais qui va vous interrompre en fait dans la progression, on se balade, on explore des niveaux, et puis d'un coup, bah, il va se mettre à pleuvoir, Bowser arrive, et donc là, on sait qu'on va devoir un petit peu changer son fusil d'épaule, adapter son comportement. Je ne sais pas comment tu l'as ressenti, toi, Plumeau.
Moi, je trouve que c'est une approche très intéressante qui a été apportée avec Bowser's Fury, qui m'a fait un peu penser à Passless, qui est sorti en fin d'année dernière, où tu avais aussi un petit peu une espèce d'exploration comme ça totalement libre, à chercher des choses qui vont permettre d'accéder à un boss à la fin, sauf que ce boss, de temps en temps, il pouvait apparaître dans Passless avec une espèce d'aura enflammée dans laquelle tu te retrouvais piégé. Et à ce moment-là, il fallait essayer de lui échapper en sauvant ton camarade Aigle. Là, Bowser apparaît et il faut... Moi, je pense... Le truc, c'est que j'ai essayé de voir l'avantage que ça donnait à chaque fois, plutôt que la contrainte de me dire « Ah merde, il y a des boules de feu qui vont me tomber dessus ». Comme tu dis, il y a des blocs qui se créent et qui te permettent d'atteindre des trucs auxquels tu ne pouvais pas avoir accès avant. Et surtout, j'ai profité pas mal de son jet enflammé pour détruire les blocs où il y a d'autres astres félins qui sont planqués. Et comme un astre félin récupéré, c'est le phare qui s'illumine un peu plus et donc lui qui se casse, ça fait que finalement, en termes de rythme, ça se déroule plutôt pas mal. Et après, pour l'instant, je ne suis pas allé au bout. Je suis arrivé seulement à la deuxième partie, du truc avec des premières plateformes qui sont surélevées avec de la lave. D'ailleurs, la lave qui tue du premier coup, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé dans un Mario d'avoir de la lave qui tue du premier coup. Avant, c'était « Ah, j'ai mal aux fesses et je cours ». Là, c'est du premier coup, donc c'est vraiment c'est plus compliqué que ce qu'est Mario 3D World lui-même, qui est un jeu qui est quand même assez permissif au début et qui se complique une fois que tu l'as fini une première fois, mais qui est quand même assez simple. Donc j'aime énormément l'idée, même si ça fait un jeu qui est très ramassé et très court, d'après ce que j'en vois. Ça fait vraiment un chouette truc, un chouette ajout à Mario 3D World qui déjà tout seul se suffisait, mais c'est peut-être aussi pour ça qu'ils n'ont pas mis de mention de luxe. Tu vois, c'est qu'ils se sont dit c'est Mario 3D World tout court, mais on va mettre quand même quelque chose, un petit supplément pour justifier le prix, et je trouve que c'est largement justifié.
Oui, puis ça leur permet d'expérimenter aussi, parce que, alors toute proportion gardée, hein, on parle de Nintendo et de ses codes quand même assez établis, mais on a un petit côté expérimentation dans Bowser's Fury, où on voit que Koizumi et ses équipes essayent de changer un petit peu les codes, essayent de tordre la formule pour y apporter quelque chose. Et effectivement, tu parlais de la difficulté. C'est vrai qu'on n'a plus de compteur de vie dans Bowser's Fury, à l'inverse de Mario 3D World. Du coup, la punition, c'est juste de devoir recommencer en fait une séquence, mais séquence qui peut être parfois assez longue quand on a voulu atteindre le sommet justement d'une montagne ou d'un truc comme ça, et qui... une progression qui peut être perturbée en plus à n'importe quel moment par l'arrivée de Bowser, qui ne va pas toujours vouloir rentrer chez lui au bout de quelques minutes. Ça peut être un petit peu plus compliqué. Mais du coup, ils ont dû compenser. On savait que la récolte de pièces, justement, dans Mario Odyssey avait été transformée. Là, elle permet de récupérer un item supplémentaire, parce qu'on a aussi toute cette stratégie qui vise à stocker des items dans un coin pour pouvoir les ressortir au bon moment, parce que y a une variété de situations qui obligent à être un petit peu polyvalent, en tout cas pour ceux qui vont vouloir aller récupérer la centaine d'astres félins présents dans le jeu. Il va falloir penser un petit peu à tout, parce que en plus de ces mondes symbolisés par des phares dont on parlait, il y en a aussi, Mario oblige, quelques-uns qui sont cachés à droite à gauche comme ça dans leur coin, qui vont nécessiter d'aller faire un tour avec Plessy. Donc Plessy, l'espèce de grand dinosaure orange qui était présenté déjà dans 3D World, qui a fait son retour et qui va nous permettre de nous déplacer un petit peu plus vite justement au sein de cette map où il y a énormément d'eau finalement, qui va aussi nous permettre de récupérer des astres félins, voire peut-être un petit peu plus si on creuse un petit peu la question. Et évidemment, on ne l'a pas précisé, mais ça on l'avait déjà dit pendant la preview, il y a une esthétique féline qui habille absolument tous les éléments de Bowser's Fury. Ça va du buisson à la pancarte, tous les ennemis qui ont désormais des moustaches et des oreilles pointues, les arcs-en-ciel, enfin absolument tout ce qu'on peut imaginer. Et moi, j'ai trouvé ça très rigolo, très sympa, très second ou troisième degré par moment, surtout l'écran de fin. Il y a des grands moments de nani de fuck dans Bowser's Fury qui sont très présents, et on voit, enfin moi c'est l'interprétation que j'en ai, on voit que le départ progressif de Miyamoto, qui doit sans doute un petit peu lâcher la bride sur tous les chantiers, permet aux équipes de s'offrir un petit peu de liberté, de tester des choses et d'aller sans doute un peu plus loin que ce qui aurait été permis il y a encore une dizaine d'années. Donc c'est, vous l'aurez deviné, très 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 chouette, très plaisant dans un cas comme dans l'autre. Et si vous aimez, ne serait-ce qu'un tant soit peu, la plateforme 3D, c'est évidemment indispensable de redécouvrir 3D World et de découvrir Bowser's Fury.
Très bien. Romain, un commentaire ?
Ça manque de chien.
Oui, c'est vrai.
Ah très clairement, oui. Ouais.
Moi, je suis team chien à fond, donc j'avoue que l'argument des chats partout, ça marche pas, ça prend pas sur moi. Mais j'ai très envie d'y jouer. J'ai la version Wii U japonaise, comme je me suis acheté une Wii U japonaise relativement récemment, mais j'avoue que le côté simplicité d'utilisation de la Switch plus Bowser's Fury, ça donne plus.
Et en plus, jouable à deux en local, puisque un deuxième joueur peut diriger Bowser Junior qui nous accompagne tout au long de l'aventure. Et c'est quelque chose qui est rendu assez accessible. Donc je sais que pour votre pratique commune du jeu vidéo à toi et ton épouse, c'est a priori tout indiqué.
Bah, ça avait super bien marché sur Luigi's Mansion 3. On s'est vraiment éclaté à le faire tous les deux. Et là, c'est vrai que celui-ci me fait bien envie. Pour ça justement pour proposer d'y jouer avec ma femme et je pense qu'on y passera.
Bon, et ben écoutez, voilà pour donc Super Mario 3D World plus Bowser's Fury disponible sur Nintendo Switch et absolument excellent, fantastique même, j'irais jusqu'à dire, puisqu'il ça lui a valu quand même toutes ces bonnes choses, un petit 9 indispensable sur Gameblog, tout à fait justifié. Ah,
d'ailleurs, je me dis qu'on dit que c'est un épisode qui était un peu passé inaperçu à cause de la plateforme sur laquelle il est sorti à la base. Mmh. Et même si la plateforme concernée n'est pas passée inaperçue, je pense un peu pareil au sujet de Mario 3D Land.
Oui, c'est vrai.
Je trouve que c'est un épisode dont on ne parle pas assez et qui est pourtant assez brillant. Et dans son utilisation de la 3D, de la 3DS, j'avais trouvé ça assez dingue.
Sans doute un des meilleurs sur ce critère-là, ouais.
Ouais, je voulais glisser un mot pour 3D Land au passage qui le mérite.
Non, on peut poser un slam pour 3D Land, il n'y a pas de problème. Il est absolument super. Il est super simple au début. Enfin, quand tu fais le premier run, mais la deuxième partie. Une fois que tu l'as fini, là c'est du très costaud et je pense qu'il n'est pas à la portée de tout le monde non plus. C'est une chose qu'on oublie souvent de signaler à son sujet. Bon, bah écoutez, maintenant on va rentrer dans le deuxième thème avant de parler du test de Persona 5 Strikers, et qui lui va nous voler nos cœurs évidemment. Et on va retourner en 2009, messieurs. En 2009, souvenez-vous, il y avait un jeu qui était annoncé qui s'appelait Six Days in Fallujah, un jeu qui devait être édité par Konami. Un jeu qui voulait absolument revenir sur la deuxième bataille de Fallujah, donc, qui, comme vous le savez, est un événement assez récent et tragique de notre histoire, qui a vu les Américains et d'autres coalitions essayer de reprendre la ville de Fallujah tombée entre les mains de l'État islamique. C'était en 2004, il y a eu une première bataille, qui a eu lieu, elle, d'avril à mai, qui s'est finie en débâcle pour le camp américain, et une deuxième qui, elle, a eu lieu du 6 novembre au 23 décembre 2004. Cette fois, ça s'est soldé par une victoire. La ville a été reprise, mais on oublie souvent de signaler quand même qu'il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de morts, une centaine de pertes du côté américain et des milliers de civils dont on oublie souvent de parler. Et c'est surtout par rapport à tout ça que le jeu, à l'époque, en 2009, donc, a commencé à être au cœur d'une polémique, sorti trop tôt, pas forcément avec les bonnes intentions. Bref, c'était un petit peu catastrophique. À l'époque, Konami s'en était vite éloigné, et le jeu avait finalement été annulé. La semaine dernière, 11 février, qu'apprend-on ? Eh bien, Six Days of Fallujah est de retour, tout simplement. Et la polémique l'accompagne toujours, malheureusement, pour les personnes au sein de Highwire Studio qui veulent absolument que le jeu sorte. Voilà. Ils essayent de se débattre avec tout ce que cela implique. Avant qu'on parle, évidemment, de l'interview qu'a donné le président de l'éditeur du jeu, Peter Tamte, ou Tamt, je ne sais pas comment on prononce, Tamte, Tamte, Tamte.
Tamte.
Tamte, ouais, c'est, qu'il est américain, j'imagine.
Voilà, c'est pour ça que je dis ça.
Ouais, donc, qui a donné une interview donc, chez Polygon, sur laquelle nous allons revenir après. Déjà, votre sentiment, à tous les deux, sur le retour de ce jeu en lui-même.
J'ai l'impression d'être dans une boucle temporelle. je te promets, parce qu'en fait, l'annonce du jeu, les arguments donnés pour sa création et les arguments donnés par ses détracteurs, j'ai l'impression que ce sont exactement les mêmes que ceux donnés en 2009. D'un côté, vous avez les gens qui représentent le jeu qui disent non, mais ça va être représenté d'une manière ultra réaliste. On a consulté énormément de gens présents sur place à l'époque pour avoir une vision, ultra réaliste du truc.
C'est ce qu'ils disent. Une centaine de personnes qui ont été consultées, plus même, ils ont été jusqu'à consulter un ancien premier ministre, un vice-premier ministre irakien, pour être vraiment avoir les deux parties.
Et de l'autre côté, vous avez les gens qui disent non, mais c'est, ça a été un vrai massacre. Les prétextes de cette guerre de base étaient un peu fallacieux. Et comment représenter ça autrement que via le prisme de la propagande américaine. En fait, je te dis, j'ai l'impression que c'est exactement la même situation qu'en 2009. Rien n'a changé, mis à part les éditeurs concernés. Et je sais pas. Je ne sais pas à quoi ça va mener.
Thomas.
Effectivement, on entend les mêmes discours. Et je me rappelle qu'à l'époque, il y avait aussi la même année, je crois, que la polémique Resident Evil 5, deux jeux qui étaient édités par des groupes japonais et qui avaient essayé de faire profil bas. Mais ça me fait dire que le temps qui passe, finalement, ne change pas grand-chose. Et que la perspective de le ressortir là une dizaine d'années après, visiblement, comme le disait Romain, n'a pas atténué le discours pro ou anti d'un côté comme de l'autre, et que finalement il y a peut-être pas. Au-delà, pour l'instant, je rentre pas dans le fond du jeu, mais au-delà de cet aspect, le fait de traiter d'un événement historique quel qu'il soit, il y a pas forcément de bon moment pour le faire. Ça veut dire qu'on peut peut-être aussi le traiter de façon assez immédiate, même si forcément le discours qu'on va tenir dessus va être incomplet. Et ne serait-ce que là, on parle du jeu, peut-être qu'on ne saura jamais tout ce qui s'est passé durant cette dizaine d'années en coulisses, qui a voulu à tout prix le ressortir, à quelle fin, pour quel motif, etc. Et ça prouve bien que quelque part, on peut aussi choisir de traiter de l'actualité à travers le jeu vidéo. Après, tout dépend la manière dont on entend s'en emparer et le point de vue qu'on veut illustrer, parce que je pense que c'est tout le sujet justement polémique de cette ressortie.
C'est que la question que je me pose, c'est pourquoi ? Enfin, est-ce qu'il y avait vraiment une demande profonde de faire revivre ce...
C'est pour ça que je m'interroge sur les coulisses.
Moi, j'ai une autre question, c'est... Mais attention, je me mets pour l'instant vers aucun bord, hein. Je vous pose juste la question. C'est pourquoi cet événement en particulier ne pourrait pas l'être alors qu'on fait des jeux sur la Deuxième Guerre mondiale et sur le Vietnam depuis des années. Et sachant que le Vietnam, c'était pas beau non plus à voir, et la Deuxième Guerre mondiale, n'en parlons pas. Alors, est-ce que ça vient du fait que... justement, en rappelant le contexte, on commence à s'interroger un peu plus. À savoir que la deuxième guerre du Golfe qui a été lancée par les USA en 2003, donc sous l'impulsion de George W. Bush, avec un Colin Powell qui était allé dire aux Nations Unies « Mais oui, il y a des armes de destruction massive qui sont en Irak, Saddam Hussein veut tous nous
faire... » Le yellow cake ?
Alors qu'en fait, pas vraiment... que c'était un petit peu un prétexte, comme disait Romain tout à l'heure, qui était complètement fallacieux et qui avait probablement des motivations tout autres derrière l'envie d'aller derrière l'envie d'Irak. Est-ce que c'est ça qui pose le plus gros problème finalement ?
Ce qui est étonnant, c'est que quand on regarde justement les événements, les guerres qui ont été traitées auparavant par le jeu vidéo, celles que tu as citées, Seconde Guerre mondiale, guerre du Vietnam, et il y en a plein d'autres, on pourrait faire les mêmes reproches quelque part parce Absolument. Que. Assez rarement, même si le dernier Call of Duty a pris soin de mettre en scène Reagan pour justifier justement un petit peu son propos, on a quand même assez peu de réflexion généralement sur les tenants et aboutissants du conflit, sur ce qui s'est passé avant, les forces en présence et surtout les motivations politiques qu'il y a eu derrière. Et là, visiblement, Six Days in Fallujah fait à peu près la même chose, c'est-à-dire passer sous silence les arguments absolument dégueulasses qui ont été mis en avant pour justement déclencher cette guerre à l'époque, mais on pourrait l'appliquer justement à pas mal d'autres, et même à des conflits un petit peu plus anciens. Si Camille était là, il nous parlerait sûrement de jeux à l'environnement médiéval, dont voilà, les motivations étaient au moins tout aussi dégueulasses.
Camille, il nous dirait que Gengis Khan avait raison. Voilà, ça se terminerait là.
Ce genre de choses. mais du coup, c'est là qu'on voit que l'immédiateté fait qu'il y a sans doute un peu plus de sentiments de la part du public, des gens qui ont pu peut-être être contemporains justement de ces actions-là. Mais moi, je me demande pourquoi justement on ne le fait pas du coup à chaque fois, parce que pour pas mal de jeux, pas mal de FPS surtout, qui généralement ne représentent qu'un seul côté, celui de l'Occident, celui des vainqueurs, on n'a pas la même réflexion historique et philosophique. Donc il serait peut-être temps de l'avoir un peu plus systématiquement, en tout cas d'en parler à chaque fois.
Après, tu vois, le... Dans cette affaire-là, je vois bien et j'entends totalement les commentaires des détracteurs, des gens qui sont contre l'existence même de ce jeu. Mais au fond, pourquoi n'a-t-il pas le droit d'exister ? Tu vois, dans différentes formes de médias, de la littérature, le cinéma, etc., tu as toujours un point de vue qui est exprimé. Et c'est pas forcément le bon point de vue, c'est pas forcément celui avec lequel tu es d'accord, mais ça peut être aussi un signe de maturité du jeu vidéo, finalement, de pouvoir traiter d'un sujet comme celui-là avec un angle qui n'est pas forcément celui avec lequel tu es d'accord, qui n'est pas forcément le plus, on va dire, le meilleur d'un point de vue moral. Mais malgré tout, il a le droit d'exister. Après, libre aux gens d'acheter ou pas ce jeu. Et justement, s'il sort, de présenter des contre-arguments et de présenter en quoi il est répréhensible. Mais l'empêcher d'exister au préalable, ça peut être gênant d'un autre point de vue.
Le seul problème que j'ai, c'est que quand on se réclame justement d'une espèce de véracité historique, parce que Plume, tu nous le rappelais, il y a eu beaucoup de gens qui ont pris part au conflit de près ou de loin, qui ont été...
Et les développeurs insistent sur le fait qu'ils ont énormément de personnes qui étaient sur place, des marines, des soldats, des civils.
Des témoignages directs.
Qu'ils ont, eux, vraiment des témoignages, des histoires, des photos, des vidéos aussi, pour appuyer tout ce qu'ils vont pouvoir raconter dans le jeu. Donc ça, ils se réclament effectivement d'une authenticité.
Et c'est là qu'il y a un problème, justement, parce que le faire, en soi, je veux dire, c'est louable. Et effectivement, comme disait Romain, on a le droit d'exposer des faits, une certaine vision du monde, etc. Mais là, quand on se réclame autant du caractère historique du jeu, et qu'on choisit sciemment de passer sous silence tout un tas d'éléments, parce que c'est ce que révèle l'interview dont tu parlais en préambule, là, ça me pose un problème, parce que tu t'essayes de te parer d'une espèce de travail de recherche, et derrière, on se rend compte de tous les trous et de tous les biais politiques et même philosophiques qu'il va y avoir. Donc, jouer sur les deux tableaux en même temps, intellectuellement, c'est quand même très malhonnête, je trouve.
Ouais, là, c'est gênant, et c'est là où il faudrait être un peu plus transparent sur la démarche. Mais bon, après, les gens qui font de la propagande viennent jamais en disant « Ouais, on est là pour faire de la propagande, les gars. On est là pour faire passer notre message au chausse-pied. » Et c'est pas comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Mais ce qui est presque encore pire que tout ça, c'est qu'ensuite, les mecs osent dire que c'est pas un jeu politique.
C'est Alors voilà, on va revenir sur l'interview donnée par Peter Tamty dans Polygone. Lui est le président de Victura, donc qui va éditer le jeu. Lui, ça fait depuis le début qu'il essaye de vouloir sortir ce jeu. Il était là déjà à l'époque. C'est lui qui devait se charger de développer le jeu avec des anciens de Halo et de Destiny quand même, pour replacer aussi la chose. Et il explique que il veut pas que le jeu ait un caractère politique. Il dit exactement, nous n'essayons pas de faire un commentaire politique sur la question de savoir si la guerre elle-même était une bonne ou une mauvaise idée. Ce qui est quand même, pour un jeu qui va traiter d'une bataille meurtrière, probablement infondée, puisqu'on parle de fait, encore une fois, des États-Unis qui ont voulu démontrer qu'il y avait des armes de destruction massive qui n'existaient pas. Donc c'est tout un enchevêtrement de situation qui a amené à cette situation-là de la bataille de Fallujah. Il veut juste montrer la réalité du terrain, de ce qu'ont vécu les Marines et les civils, parce que le jeu a changé depuis 2009. Maintenant, ils vont intégrer aussi un point de vue irakien, pas un point de vue d'insurgé ou de membre d'Al-Qaïda, non, d'un civil, d'un père de famille qui va essayer d'échapper justement à la ville alors que le conflit a lieu, et il veut essayer de montrer ce qui s'est passé dedans. Mais quand tu montres ce qui s'est passé dedans, je veux dire, que ce soit au niveau militaire ou au niveau civil, tu es obligé de prendre parti. Tu peux pas, enfin, moi c'est mon avis,
évidemment,
tu ne peux pas dire le jeu n'est pas politique ou n'a pas au moins un regard politique sur la situation. Thomas,
c'est clair et net,
toi qui dis que tout est politique.
Eh oui, mais tout est politique. À plus forte raison, le jeu vidéo qui entend parler d'une bataille d'un certain point de vue, dans laquelle ont quand même été employées des armes chimiques, puisque tu le précisais, il y a des missiles au phosphore blanc qui ont été utilisés pendant la bataille de Fallujah. Alors, je ne vais pas préjuger trop vite non plus du travail qui va être opéré, puisque pour l'instant, on a revu un trailer de cette nouvelle version qui a été évidemment tiré vers le haut sur le plan graphique. On ne sait pas encore de quoi ça va parler. Le fait d'ajouter un personnage local, un Irakien, va peut-être permettre de temporiser un petit peu le discours, mais toujours est-il que déclarer comme ça de but en blanc, c'est aussi crédible que quand Guillemot, le PDG d'Ubisoft, l'affirme, alors que ils font des jeux très militaires ou des Far Cry qui s'attaquent à des thématiques comme celle d'un culte autour d'un personnage charismatique. Tu peux pas prendre cette thématique, la mettre au centre de ton jeu et te dire « Ah non, nous on fait pas de politique, c'est impensable ». À la limite, Miyamoto dit ça pour Super Mario 3D World, je veux bien être prêt à l'entendre. Mais là, dans le cas de figure dont on est en train de parler, c'est tellement du bullshit, c'est tellement pas raccord avec la réalité, ça se taper la tête contre les murs.
Moi, il y a un truc, c'est que t'as peut-être pas envie que ce soit le cas, mais c'est obligatoire. Je veux dire,
le sujet traité, le fait d'adopter un point de vue en particulier et le fait de dire sciemment qu'on ne parlera pas justement du contexte historique et militaire qu'il y a autour, donc à savoir la manière dont les États-Unis sont entrés en guerre de manière assez unilatérale et mensongère, le fait que tu dises on ne va pas en parler parce qu'on s'intéresse à la réalité du terrain, comme si les Marines qui avaient été envoyés ne se sont pas à un moment donné posé la question de la légitimité du conflit, n'en auraient pas parlé entre eux. Tout ça est quand même complètement déconnecté, quoi.
Oui, surtout, enfin, comment tu peux... En fait, ce sont des déclarations contradictoires d'une même personne, en fait. Comment tu peux montrer la réalité du terrain, enfin, telle que toi, tu veux la montrer, sans être politique en même temps, tu vois, c'est juste pas possible sur un sujet comme ça. Oui, NBA Jam, c'est pas un jeu politique. Et encore, tu pouvais jouer avec Bill Clinton et Hillary Clinton et le prince Charles, etc. Mais j'arrive pas à voir comment tu peux dire sans rigoler que tu prends un thème comme Fallujah et pas être politique en même temps. Et en plus, t'as le faire-valoir du point de vue irakien. Déjà, je pense que faudrait peut-être montrer plus qu'un seul personnage pour réussir à avoir un point de vue irakien décent. Et il faut voir aussi ce qu'ils lui font faire et dire à ce personnage-là. Parce que si, dans le jeu, tu le vois accueillir les soldats américains comme des sauveurs, comme les héros... Mais si, mais vous voyez, c'est comme ça qu'ils ont perçu les choses. Alors après, peut-être, là encore, peut-être que certains civils irakiens étaient très contents de voir les Américains lutter contre les islamistes. Ça, c'est tout à fait possible. Mais ce n'était peut-être pas la totalité des civils irakiens présents sur place. Et si ces mêmes civils irakiens avaient besoin d'être sauvés par les militaires américains contre les islamistes, pourquoi à la base ? Comment ça se fait que ce conflit s'est installé à cet endroit-là ? Pourquoi les islamistes ont essayé de gagner du terrain ? Enfin bref, il y a plein de...
Parce qu'on oublie souvent de dire, et ça c'est des choses qu'on peut apprendre, qu'on a pu apprendre dans les années 2000, ou avant, c'était que Saddam Hussein était quand même un petit peu, malgré le fait que ce soit...
C'est le rempart.
Un tyran, un rempart contre ces problèmes d'islamisation en Irak. Parce que,
ils ont ouvert les portes en dégageant Saddam.
Exactement. Et ça, on oublie souvent de le dire, même si après, évidemment, c'est plus compliqué. Toutes ces choses-là, c'est un peu compliqué pour nous à notre échelle. Mais oui, c'est sûr que quand on veut aborder un jeu comme ça, c'est un peu compliqué de vouloir faire passer ça pour un message purement ludique. Thomas, évidemment, relève les yeux au ciel et ça peut se comprendre. Toujours est-il que j'imagine que vous avez vu les réactions de pas mal de développeurs à ce sujet. Il y a eu notamment un thread de Rami Ismail qui, vraiment, je pense, est furieux. Et je pense que c'est totalement authentique. Tous les morceaux qu'il a pris de l'interview en n'oubliant pas de dire qu'il fallait penser aussi un petit peu aux côtés des Irakiens. Et puis, il y a eu cette remarque de Neil Druckmann, vice-président de Naughty Dog, qui, lui, explique en gros que le sujet est sérieux, que forcément il est politique, et que plutôt que de vouloir essayer d'esquiver absolument l'aspect politique, il ferait mieux peut-être à ce moment-là d'aller complètement dedans et vraiment creuser le truc à 200%, quoi.
C'est ce que je disais tout à l'heure, le jeu a le droit d'exister. Il a le droit de raconter ce qu'il veut raconter à sa manière, faut juste l'assumer. Et il faut assumer, il faut accepter à côté de ça, de se prendre des avis contradictoires dans la face et de voir son travail épluché par des historiens ou des gens qui ont vécu ça et qui présentent des contre-arguments face à ce qui est dit et montré dans le jeu. En fait, s'ils assumaient peut-être un peu plus leur positionnement et les raisons de l'existence même de ce jeu, peut-être que ça parlerait moins. Parce que les gens, tu vois, par exemple, si le truc est assez présenté avec des gros sabots comme étant de la propagande militaire américaine, bah les gens le prendraient pour ce que c'est. Ils diraient, bon, on sait à quoi on s'expose, tu vois, on sait à quoi on va avoir le droit, comme énormément de films ont pu le faire au cours des 50, 60 dernières années, voire peut-être même plus. Et donc après, bah, on se dirait, voilà ce que c'est, on sait et on passe à autre chose, tu vois. Là, comme en fait, ils essayent de jouer sur plusieurs tableaux en même temps et de ne pas être spécialement franc du collier vis-à-vis de ce qu'est le jeu, bah là, forcément, ça cause plus de polémiques et ça cause plus de problèmes.
Bon. En tout cas, on surveillera avec attention la sortie de Six Days in Fallujah, forcément, s'il n'est pas annulé. Encore une fois, on ne sait jamais, hein, toutes ces choses qui peuvent arriver à un jeu au cœur d'une polémique. Thomas.
Oui, juste pour finir sur les threads dont tu parlais, de la part d'Ismaël et de Druckmann, moi, je comprends que des créateurs, des réalisateurs qui essayent justement dans leurs œuvres d'apporter un discours qui soit moins manichéen, sautent au plafond et prennent la parole justement pour clouer un peu au pilori la dimension soi-disant non politique de Six Days in Fallujah, parce qu'on voit qu'il y a des gens, et je pense notamment à Kojima, mais il y en a évidemment plein d'autres, des gens qui essayent d'apporter une vraie réflexion sur ce que c'est qu'un conflit, sur ce que c'est que le fait de se trouver face à un adversaire, de prendre sa vie pour des raisons qui nous dépassent, etc. Et on sent qu'on fait un petit peu du chemin vis-à-vis de ce genre de problème, et là, boum, on te balance ce truc-là qui est resté dans son jus, qui est toujours aussi unilatéral, malgré les bonnes intentions, y compris le fait de rajouter un personnage local dont on ne sait pas, dont on ne connaît pas pour l'instant le positionnement. Moi, voilà, je suis plutôt rassuré d'avoir vu des grands noms du jeu vidéo, justement, qui eux font preuve un petit peu de maturité dans leurs œuvres, montés au créneau pour dénoncer tout ça, parce que ça va à l'inverse finalement de la tendance qu'on est en train d'observer, et c'est bien dommage, mais ça nous rappelle aussi à quel point on n'a pas de réflexion sur ce genre de jeu qui glorifie le complexe militaro-industriel la plupart du temps dans des guerres qui sont un peu plus lointaines ou des fois complètement fantasmées. Peut-être qu'on devrait aussi s'interroger à chaque fois dans ce genre de cas.
Ben, c'est pour ça qu'il y a des jeux malheureusement passés trop inaperçus comme Spec Ops The Line, qui, eux, montrent la guerre avec un point de vue radicalement différent. Mais là, pour le coup, comme c'est pas du... j'ai horreur de cette expression, mais c'est pas du pam-pam-boum-boum.
Bête et méchant.
Bête et méchant, voilà, ou America Fuck Yeah. Bah c'est passé plus inaperçu, ça s'est moins bien vendu, etc. Et c'est peut-être pour ça aussi que les développeurs de Six Days in Fallujah essayent de dire non, c'est pas politique, justement pour pas nuire potentiellement à leur vente par la suite.
Bah c'est probablement pour ça que Ubi avait utilisé cette posture à l'époque de Far Cry 5, et de manière générale aussi. Peut-être que la politique fait beaucoup trop peur à certains développeurs et qui s'imaginent que ça va nuire à leur vente de manière irrévocable, comme on dit. Enfin bref, on verra bien. Mais oui, comme tu disais, Spec Ops The Line, ça donne envie d'y rejouer du coup, parce que sa représentation de la guerre et de toutes les horreurs que ça peut susciter...
L'évolution. Le chemin parcouru par le héros dans Spec Ops The Line, l'évolution de l'histoire avec les twists sur la fin auxquels tu t'attends pas quand tu commences le jeu sans avoir rien lu à son sujet, etc. C'est assez dingue. C'est vraiment un jeu. Je pense pas qu'il soit rétrocompatible sur Xbox One, malheureusement. Xbox One et Series X. Oui,
mais tu le trouves pour une bouchée de pain.
Il était sorti sur PC aussi, j'imagine.
Oui. Absolument, oui.
Bah, si vous avez les moyens techniques de jouer à Spec Ops The Line, je vous le recommande vivement, et même d'essayer de faire les différentes fins, parce qu'il y a plusieurs fins en fonction de ce que vous pouvez faire sur la fin du jeu. J'en révèle pas plus, parce que c'est vraiment une expérience à faire. Et ça fait réfléchir.
Exactement, ça fait réfléchir. Bon, bah écoutez, on surveillera, comme je vous disais tout à l'heure, Six Days in Fallujah, donc qui sort cette année, normalement, sur PC et console. On finit avec une note un peu plus joyeuse, voire beaucoup plus joyeuse, voire qui n'a rien à voir du tout. On retourne au Japon, on retourne avec nos amis les voleurs de cœur, les voleurs fantômes, pardon, pour la traduction française, puisqu'on va parler de Persona 5 Strikers.
Et
mon
oui.
Cher Thomas, cette version actionnisée de Persona 5, la suite de Persona 5, et non pas de Persona 5 Royal, insistons bien là-dessus, donc qui arrive donc enfin en Europe, après être passé par le Japon, sur PS4 et Switch. Thomas, la preview était un petit peu froide. Et PC, pardon. La preview était un petit peu froide de ta part. Est-ce que ça va mieux maintenant que tu... Non, j'ai l'impression. Ah, tu t'as prêté non. à soupirer, donc je préfère...
Je ne vais pas le clouer au pivori. Ça va quand même un petit peu mieux depuis la preview. On va dire que les premières zones parcourues pendant l'aventure en étaient... peut-être pas les plus engageantes du monde. On va recontextualiser un tout petit peu ce qui se passe, puisqu'effectivement, tu l'as dit, c'est la suite de Persona 5 tout court. Donc, les événements du troisième trimestre n'ont pas eu lieu. Mais le temps s'est un petit peu écoulé. On retrouve, du coup, les voleurs fantômes de cœur. J'ai découvert la traduction française avec cet épisode, qui reprennent du service très rapidement, en fait, pendant l'été. Hein, on s'était quitté au printemps. À la fin de l'année scolaire, à la fin de Persona 5. Et tout un truchement d'événements, ce cher Ren, donc le Joker, revient à Tokyo, sur les lieux du crime, pour retrouver à peu près tous ses compagnons de l'aventure principale, puisque, comme le chapitre bonus qui avait été ajouté à Persona 5 Royal, tout ça pour ça, il se passe quelque chose qui fait que les voleurs fantômes doivent reprendre à nouveau du service, puisque le Japon est une nouvelle fois menacé psychologiquement par des métanoïa, mais qui sont cette fois-ci un petit peu différentes, et c'est toute la difficulté d'introduire le propos, c'est que le jeu essaye de trouver des trésors de narration pour nous expliquer pourquoi tout ça n'a servi à rien, et pourquoi du coup le fait que ces métanoïa soient un petit peu différentes cette fois-ci, ça justifie que tout ce que tu avais accumulé comme expérience dans la première aventure n'existe plus et qu'il faut quelque part repartir de pas de zéro, mais presque, et reconstituer un stock de persona, de techniques, faire grimper ses points de vie et tout ce qui s'ensuit. Évidemment, c'est un jeu Omega Force, donc il prend la forme d'un Musso, un beat'em all, jeu d'action 3D où on défouraille du mob par dizaines, si ce n'est par centaines. Mais comme le studio avait déjà essayé d'adapter véritablement la formule, notamment avec les séries Fire Emblem, mais surtout le dernier avec Breath of the Wild, l'épisode avec les prodiges qui avait essayé de récupérer tout un tas de mécaniques en plus du décorum de Breath of the Wild pour adapter un petit peu la formule. Là, une fois de plus, on reprend l'esthétique tellement classieuse et singulière de Persona 5 avec ses menus, ses couleurs saturées, le temps qui passe, la manière dont c'est illustré, tout ça se retrouve dans Persona 5 Strikers. Du coup, on replonge véritablement dans cet univers qu'on avait laissé quelques mois auparavant. Ça a été un tout petit peu adapté, ça marche évidemment très bien. En termes de thématique musicale, on retrouve la plupart des thèmes aussi qui nous avaient bercés et accompagnés pendant les dizaines, pour pas dire plus, d'heures de jeu de Persona 5. Même si les nouveaux thèmes sont un petit peu plus discutables en termes de qualité, on va dire qu'ils sont assez inégaux finalement.
Mais il y a beaucoup de remixes qui sont un peu moyens, non ?
Oui, il y a des reprises un peu crado, un peu rock garage dégueulasse de certains thèmes passés en mineur, tu vois, qui ne sont pas forcément du meilleur acabit, avec le texte qui est resté le même et qui essaie de s'adapter justement à la nouvelle thématique du morceau. Il y a du bon, il y a du moins bon en termes d'ajouts musicaux, c'est assez disparate, on va dire. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette fois-ci, on ne va pas rester statique. L'aventure, évidemment, commence à Tokyo. Hein, on a tout un premier chapitre en mode auto-célébration. On retourne au Café Leblanc, on retrouve Sojiro, on retrouve toute la bande pour se donner des nouvelles, trouver une nouvelle antagoniste, pénétrer un nouveau palais. Alors là, c'est plus des palais, c'est des prisons, c'est plus des... je ne sais plus comment s'appeler les leaders dans Persona 5, mais là, ce sont des monarques qui ont volé non pas le cœur, mais les désirs des gens, puisqu'en fait, cette fois-ci, les personnes incriminées font le mal autour d'eux dans un cercle assez proche. En fait, on va se retrouver face à des personnalités qui utilisent leur emploi d'une nouvelle application, parce qu'évidemment, il est à nouveau question d'une application sur smartphone qui s'appelle Emma, cette fois-ci, pour en fait gagner en célébrité grosso modo, hein, pour arnaquer les gens autour d'eux, récupérer leurs dons, littéralement. Il y a ce genre de thématique qui est abordée. Et bah voilà, il va falloir défaire ces espèces de figures maléfiques qui commencent à Tokyo. Pour le coup, la première antagoniste face à laquelle on se trouve, elle ouvre une boutique au sein du Shibuya 705. Et c'est là que l'aventure va commencer. Et c'est évidemment prétexte à revenir un petit peu sur tous les lieux qu'on avait parcourus dans Persona 5. Mais très rapidement, c'est là où ça devient intéressant, c'est que l'équipe, eh bien, part en tournée estivale, puisque l'aventure, cette fois-ci, va nous emmener, eh bien, à travers un petit peu tout le Japon pour un espèce de road trip et surtout un prétexte à la découverte de ces environnements. On sait que les Japonais sont très friands du tourisme local. Les Japonais adorent découvrir les autres préfectures qu'il y a autour de chez eux. Aussi, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de vacances et qu'ils ne peuvent pas forcément aller très loin. Mais là, on retrouve justement cette espèce d'amour du tourisme local, puisque bah, chaque fois que la troupe va arriver à un nouvel endroit, on va découvrir ses spécificités, ses spécialités culinaires. Évidemment, Anne va goûter à toutes les spécialités sucrées de chaque zone. Et évidemment, tout ça est entrecoupé de scènes, de dialogues où Ryuji en prend plein la gueule. Enfin bref, on retrouve les archétypes des personnages et cet esprit de troupe qui animait la bande dans Persona 5. De ce point de vue-là, c'est très présent. Ça reste un jeu, toute proportion gardée, assez bavard, en tout cas bavard pour un Musso. On a beaucoup de phases de dialogue qui permettent de resituer un petit peu l'action, parce que le jeu essaye de permettre aux joueurs qui éventuellement n'auraient pas fait Persona 5 d'essayer un tout petit peu de savoir de quoi on parle, de raccrocher les wagons, comme l'aurait dit un ancien rédac chef de ce vénérable site internet. Alors c'est pas évident, franchement, si on n'a pas fait Persona 5, c'est pas forcément très facile de rentrer dans l'intrigue et de comprendre tout ce qui s'y passe. Mais une fois qu'on y est, voilà, on retourne dans des donjons et c'est là que les phases de Musso vont véritablement s'exprimer. On a toujours des phases d'exploration et de dialogue au sein des environnements, des villes, dans le monde réel. Et à un moment donné, on va évidemment remettre son masque et plonger dans les prisons, cette fois-ci des monarques. Et là, bah, le gameplay est véritablement adapté. Et c'est une nouvelle fois sur ce point là que ça coince un tout petit peu, parce que même si Omega Force et Koei Tecmo ont essayé de véritablement adapter la formule du RPG au tour par tour à un Musso avec énormément d'action, je trouve que ça reste quand même assez brouillon au global, puisqu'on se retrouve à chaque fois face à des dizaines d'ennemis. Alors des ennemis qui gardent leurs faiblesses élémentaires, hein, qui sont d'ailleurs les mêmes pour ceux qui ont encore en tête justement les faiblesses de... Alors, quand t'es face à un Jack Frost, c'est assez facile, mais au fur et à mesure, on sait que ça se complexifie un petit peu. On a des combats qui à chaque fois se déclenchent en touchant un ennemi, donc en l'attaquant de manière préventive ou en lui rentrant dedans, et là, la zone de jeu se resserre, on a des dizaines d'ennemis à défaire avant de pouvoir continuer sa progression. Et globalement, voilà, ça reste quand même une espèce de foire à l'empoigne où tout le monde se tape dessus, où on essaye d'exploiter les faiblesses. Mais tout ça est à chaque fois rapidement mené et on a quand même, on sort à chaque fois avec un sentiment de chaos. Alors, c'est ce qu'une partie du public des Musso recherche. Pour le coup, c'est pas franchement ce qui m'a plu dans l'aventure. J'ai préféré la partie scénarisée, la découverte des nouveaux lieux, la découverte des nouveaux personnages et les interactions entre les voleurs fantômes.
Mais est-ce qu'il y a un aspect RPG dans cette partie aventure ? Alors, parce qu'ils l'ont vanté comme ça chez Koei Tecmo, ils ont dit que c'était vraiment un RPG avec une partie action. Qu'en est-il vraiment ?
On a les dimensions RPG déjà dans la partie scénarisée, et effectivement dans les phases d'action on a du leveling, on a un entretien, un croisement de persona aussi qu'on retrouve qui est hérité de la version originale.
Les invocations aussi, non ?
Alors ça se passe différemment en fait, parce que tu peux sauter d'un personnage à l'autre. Là, vu que toute la troupe est accessible d'emblée, avec Sophia, la petite nouvelle, qui est en fait une IA qui va vous accompagner et vous distiller tout un tas de conseils pratiques pendant l'aventure, là, on peut rapidement basculer d'un personnage à l'autre, ce qui entraîne du coup, comme le Baton Pass, des dynamiques justement de boost, d'attaque, si tu réussis à exploiter une nouvelle fois ses faiblesses, ou en tout cas les propriétés de chaque personnage. Mais la progression n'est pas forcément aussi marquée. Il y a, mis à part les boss, en fait, qui sont un petit peu, bah, comme dans Persona, des gaps de difficulté, c'est pas forcément très compliqué, en fait, de progresser au sein des donjons qui sont quand même un peu plus grands, découpés en zones dans lesquelles on peut se téléporter au fur et à mesure. L'aspect RPG, il va se retrouver aussi, mine de rien, sur la partie sociale, alors qui a été récupérée un petit peu différemment. Là, en fait, plutôt que de développer des affinités avec des gens dont tu es déjà très proche, scénaristiquement parlant, tu as une seule jauge unique, qui est une jauge de lien, en fait, qui va se remplir au fur et à mesure, surtout de l'avancée du scénario, et qui va te permettre, en fait, de développer des affinités pour l'ensemble du groupe. Alors ça va de trucs très classiques comme faire grimper les PV ou les points de compétence de tout le monde, mais aussi privilégier certaines techniques. C'est, on va dire, simplifié, et en même temps, vu la thématique du jeu, enfin vu le côté action, c'est assez logique, mais du coup tu perds forcément en finesse. Ça permet en tout cas de passer moins de temps dans les menus. Ça, pour le coup, c'est quand même un avantage pour avoir fini Persona 5 Royal il n'y a pas longtemps. On repasse quand même énormément de temps dans les menus. Là, toute la gestion est globalement un petit peu plus simplifiée. Le problème, c'est que tu passes pas mal de temps, en fait, dans des espèces de distributeurs automatiques ou dans la boutique en ligne pour aller acheter tes items, parce qu'il se trouve que c'est l'été, donc les vendeurs de Persona 5 sont en vacances pour une raison ou pour une autre, et t'as moins d'interaction finalement avec les personnages qu'on connaissait. En même temps, vu la thématique du road trip, c'est logique, mais voilà, on a un équilibre qui est quand même pas mal, mais le problème, c'est que les phases de gameplay, les vraies phases de gameplay, celles de combat, sont clairement pas celles qui m'ont le plus convaincu. Et du coup, malgré des trésors de bonne volonté déployés par Omega Force pour essayer d'aspirer tous les aspects positifs de Persona et les injecter dans un Musso, moi, j'ai passé un moment agréable, mais pas non plus transcendant, tu vois. C'est en plus, en termes de scénario, on voit que la suite a du mal à se justifier quand même au départ. Donc moi, j'ai lancé l'aventure avec cette sensation qu'elle était quand même un petit peu forcée. On essaye, voilà, vraiment de la coller dans la continuité de la principale. Ça marche pas forcément très bien. Après, si votre seule envie, c'est de retrouver cette bande, les fantômes, les voleurs fantômes, de retrouver les interactions, la thématique qui faisait, parmi tant d'autres, le sel de Persona 5, de ce point de vue-là, le compte y est. On retrouve véritablement cette ambiance super chouette, ces menus, ces musiques. De ce point de vue-là, tout marche très bien. Le problème, c'est que pour avancer, il faut se taper des phases de gameplay d'exploration qui sont pas très réussies, qui sont plutôt scolaires, en fait, qui sont dans la droite lignée de tous les Musso, de tous les crossovers Musso qu'on a pu avoir ces derniers temps. Je pense évidemment à Lodo Prodige, qui essayait aussi de changer un petit peu la formule, mais qui malgré tout restait assez scolaire dans son déroulement. Là, j'ai retrouvé le même problème. Donc, c'est une bonne expérience, mais il ne faut pas forcément en attendre beaucoup plus. En fait, ceux qui veulent prolonger l'univers de l'immersion dans l'univers de Persona vont y trouver leur compte, mais ce n'est pas un jeu qui est à la hauteur de l'original, évidemment. Donc, voilà, je ne le conseillerais qu'à ceux qui savent véritablement à quoi s'attendre.
Ouais. Moi, c'est ce qui m'avait plu quand j'avais fait la démo japonaise. C'est justement, j'avais été étonné d'avoir l'impression de jouer à Persona 5-2, tu vois. C'était, je parle en termes d'interface, d'ambiance, de musique et tout. J'avais trouvé ça très fidèle, parce que je m'attendais à un Musso-like lambda, tu vois. Parce qu'en fait, dans les Musso qui utilisent des licences autres que le Dynasty Warriors classique, tu as différents niveaux de réalisation, tu vois. Il y en a certains qui se rapprochaient énormément des Dynasty Warriors classiques, et d'autres qui font des efforts pour se rapprocher plus de l'œuvre originale. Et je trouvais que Persona, justement, venait se mettre dans cette deuxième catégorie où tu avais vraiment l'impression d'avoir un travail de proximité avec le Persona 5 original. Et comme tu disais, moi, je me mets dans cette catégorie de gens qui avaient envie de retrouver les personnages, de retrouver l'ambiance, etc. Et c'est pour ça que ça me plaît bien. C'est vrai que dans la démo, une fois qu'on passait au mode gameplay, au mode gameplay combat, c'était pas forcément le truc le plus réjouissant du monde, mais rien que pour pouvoir repasser un petit moment, je prends ça comme un bonus, tu vois, comme un cadeau, ça, de pouvoir les retrouver, de prolonger un peu le temps passé avec tous ces héros, parce qu'on sait que les personnages d'un épisode à l'autre, ils passent à autre chose. Donc je vois ça un peu plus comme un cadeau, quitte à fermer un peu les yeux sur le gameplay Musso, qui est ce qu'il est.
cette impression de légèreté, elle est renforcée par la thématique, justement. Non seulement on est en plein été, on sent qu'il y a de la décontraction, et il y a ce côté road trip, découverte, tourisme, qui fait que globalement, on est face vraiment à un spin-off, donc quelque chose, oui, de plus léger, qui est, comme tu le dis, peut-être plus un bonus, un bonus track, finalement, à l'aventure originale. Et de ce point de vue-là, une fois de plus, ça marche vraiment bien en termes d'interaction, de personnalité, de running gag, de thématique. On va y trouver son compte, évidemment.
Bon, moi je comprends que tu aurais peut-être préféré que ce soit un Persona 5-2 plutôt qu'un Persona 5 Strikers.
Alors moi, tu connais mon aversion pour les suites dont on n'a pas besoin. Hein. Persona 5 était très bien. Moi, j'ai trouvé le trimestre bonus du Royal finalement assez dispensable au regard de l'aventure. Là, oui, c'est pareil, c'est assez dispensable. Si un jeu n'a pas besoin de suite, il n'a pas besoin de suite, que ce soit sous la forme d'un spin-off ou un autre. Donc voilà, maintenant, espérons que Atlus, qui n'est pas le studio de développement derrière ce jeu, puisse effectivement passer à autre chose. On sait qu'il y a évidemment Shin Megami Tensei 5 qui les occupe pas mal. Et de découvrir peut-être un jour, dans, je sais pas, la prochaine décennie, ce qui se cache derrière Persona 6, puisqu'il y a bien un moment où il faudra tourner la page et mettre en chantier autre chose.
On m'avait dit que c'était pas pour tout de suite Persona 6.
Ouais, on s'en doute bien. Hein, quand tu vois l'écart qui sépare le 4 du 5 et surtout le succès tonitruant du 5, qui est sur lequel ils vont sans doute encore capitaliser un petit peu, ouais. C'est pour ça que je parle de décennie, tu vois. Je prends un peu large parce que je me doute que c'est pas pour maintenant.
Bon, bah écoute, très bien. Donc ce petit Persona 5 Strikers, tu pars sur quoi déjà au niveau de la note?
Bah, c'est un bon jeu, donc pour moi c'est un 7 sur 10. Voilà, il faut savoir ce qu'on va y trouver avant d'y mettre les pieds, donc tout dépendra de ce que vous y projetez. Et si effectivement, comme Romain et comme moi, au bout d'un moment vous pouvez passer par-dessus des phases de gameplay qui ne sont pas forcément transcendantes, derrière, on va quand même trouver une aventure assez sympathique, assez légère et plutôt comique. Donc voilà, ça reste un bon jeu.
D'accord, très bien. Eh bien, merci. Et puis, bah, du coup, j'ai envie de dire, ainsi va le podcast de Gameblog de cette semaine. Le podcast 555 s'achève maintenant. Voilà. Et puis, bah, c'est tout. On va se dire au revoir. Au revoir et merci, Thomas. Merci, Romain. Merci, Poufi. Merci Boozer aussi, hein, qui nous a beaucoup inspiré pour ce podcast. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un autre podcast de la rédaction. D'ici là, bah, on va vous donner les mêmes conseils que d'habitude, hein. Vous prenez soin de vous, vous faites le maximum pour ne pas vous faire infecter, n'est-ce pas Thomas? On te souhaite évidemment beaucoup de...
Pour l'instant, je suis clean. On en reparle la semaine prochaine.
Ouais, on te souhaite beaucoup de courage pour éviter de l'attraper. Beaucoup de courage, évidemment, à ta compagne qui vient de le choper et en espérant qu'elle ne va pas avoir autre chose qu'un petit mal de crâne qu'elle a en ce moment, c'est ça? Là, c'est mal de crâne?
Tout à fait, avec énormément de fatigue.
D'accord. Et pas de perte d'odorat, de goût?
Le nez bouché fait que pour l'instant, on ne se prononce pas trop sur ce point-là.
Bon, en tout cas, on vous souhaite que ça passe très très vite. Voilà, allez, on vous embrasse et on vous dit la semaine prochaine. Encore merci de votre fidélité. Ciao.
Ciao.
Bisous.